Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici dans cette chapelle ce matin pour honorer la mémoire de Louis XVI, de sa famille et des martyrs de la Révolution. C'est toujours un moment émouvant et en ces temps si troublés, il est bon de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est le Christ. Et avec, en partie, don de Montléon, je voudrais vous parler de la royauté. Le roi, le vrai, c'est Jésus. Le fondement de la dignité royale de notre Seigneur Jésus-Christ réside dans l'union de sa nature humaine avec la nature divine, union que les théologiens nomment union hypostatique. C'est parce que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, engendré du Père de toute éternité et consubstantiel à lui, c'est parce qu'il est lui-même Dieu véritable qu'il est essentiellement roi. Le pouvoir royal, en effet, considéré dans sa racine, le pouvoir de régir des hommes, c'est-à-dire de leur donner des ordres, de les juger, de les punir, appartient à Dieu et n'appartient qu'à lui. Le droit de gouverner le monde revient en son entier à la puissance qui créa le monde. Non seulement Dieu a fait sortir l'univers du néant, non seulement il lui a donné l'être, mais encore, il le conserve, le soutient, le vivifie à tout moment. Et si sa providence, un seul instant, se détournait de lui, le monde serait anéanti sans aucun délai. C'est de Dieu que toutes les créatures ont reçu leur existence, leur nature, leur propriété, leur qualité. De lui qu'elles tirent sans cesse ce qu'il leur faut pour subsister et aller à leur fin. C'est de lui, disait saint Paul aux Athéniens, que nous viennent et la vie, et le mouvement, et l'être. De là résulte, pour tout ce qui existe, un état de dépendance rigoureuse vis-à-vis de Dieu, une incapacité absolue à se soutenir en dehors de lui. Or, c'est précisément cette dépendance qui justifie l'autorité permanente de Dieu sur toute créature. Pour être légitime, en effet, un pouvoir doit être en mesure de satisfaire aux besoins de ceux auxquels il s'impose. Si la famille, par exemple, reconnaît l'autorité du Père, c'est qu'en l'état normal des choses, elle se remet à lui du soin d'être nourri et protégé. De même, un vrai gouvernement se doit de procurer au pays qu'il administre les meilleures conditions de paix et de prospérité. S'il est incapable de remplir son office, il perd ses droits à l'exercice d'une autorité légitime. Vérité que saint Thomas d'Aquin exprime fort bien par ces mots « Non est dominium ubi » Non est potentia. Il n'y a point de domination là où il n'y a pas de puissance. Nous pourrions continuer à développer la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour ce matin, nous en avons suffisamment dit pour mieux comprendre pourquoi la monarchie, celle de Saint-Louis, celle de Louis XVI, par exemple, est la meilleure, car tant par sa généalogie que par son sacre, le roi agit en lieutenant du Christ pour gouverner les nations comme le pape agit en vicaire du Christ pour gouverner l'Église. En France, le changement de mode de gouverner est basé sur la décapitation de Louis XVI. C'est une réalité qu'il ne faut pas oublier, parce que dès lors, le lien entre les dirigeants des différents régimes que nous avons connu et que nous connaissons est vicié parce que la royauté du Christ n'est plus reconnue. Il y a une fracture entre Dieu et sa créature, si bien que les intérêts du peuple ne sont plus dirigés par le roi des rois, mais par l'épiderme d'un... Vous m'avez compris, c'est difficile à nommer. En effet, ce 21 janvier 1793 ne voit pas seulement s'accomplir un crime, mais encore un sacrilège, parce que l'on a porté la main sur loin du Seigneur. Louis XVI a la conviction qu'il lui faudra se sacrifier lui-même pour que les grâces retombent sur le pays. Et à l'idée du roi sacrifié, et là, l'idée du roi sacrifié prend tout son sens. Lors du sacre, le roi est élevé par ses pairs et présenté à la foule, signifiant ainsi qu'il ne s'appartient plus, il appartient tout entier à son peuple et qu'il doit être capable de se sacrifier. Le roi appartient tout entier au public, disait Louis XIV. Ce peuple, Louis XVI, l'a aimé avec passion. Souvenez-vous, l'an dernier, je vous avais évoqué une longue liste de toutes ses œuvres. Mais l'homme est souvent ingrat et l'histoire ne sert hélas pas de leçon, sauf peut-être pour Louis XVI, qui est allé jusqu'au sacrifice de sa vie. Un siècle plus tôt, un autre roi fut guillotiné après un procès composé de partisans. Charles Ier d'Angleterre, qui épousa la sœur de Louis XIII. Durant son procès, il refusa de plaider, car, disait-il, les rois n'ont à rendre compte de leur action qu'à Dieu. En posant sa tête sur le billot, après avoir récité une prière, il fit signe au bourreau qu'il était prêt. Avant d'être décapité d'un unique coup de hache, il dit « Je vais d'une incorruptible à une incorruptible couronne où aucun dérangement ne peut être. » Oui, ces deux procès ne sont pas de simples assassinats de rois comme nous avions pu, hélas, le voir dans le passé. L'homme a voulu se substituer à Dieu pour juger son oin. C'est une nouveauté, c'est une révolution. Ce que Cromwell a été pour l'Angleterre, Robespierre l'a été pour la France. L'un fut décapité post-mortem et l'autre fut guillotiné. Revenons quelques instants à notre cher Louis qui nous laisse un testament avant tout spirituel. Il s'agit d'un acte de foi. Il commence d'ailleurs par ces mots, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit d'un acte de charité. Charité vis-à-vis d'abord de ses serviteurs, vis-à-vis de sa famille, de ses enfants, de sa sœur, de ceux qui se sont compromis à son service, qui se sont sacrifiés pour lui. Acte de charité également à l'égard de ses persécuteurs auxquels il accorde son pardon. Louis XVI pardonne à ceux qui le persécutent et à ceux qui vont le condamner comme ont fait les saints, ceux qui méritent le vrai titre de héros. Ce testament est aussi un acte de contrition dans lequel Louis XVI demande pardon à Dieu d'avoir sanctionné les décrets de la Constitution civile du clergé, regrettant profondément de l'avoir fait. Texte éminemment spirituel, le testament se mêle également au texte du vœu de consacrer la France au Sacré-Cœur pour donner tout son sens au sacrifice du roi. Ce sacrifice du roi, il est en quelque sorte condensé par les dernières paroles prononcées par Louis XVI sur l'échafaud le 21 janvier 1793, « Je meurs innocent des crimes que l'on m'impute. » Je pardonne aux auteurs de ma mort. Le sacrifice est lié au pardon Ce sacrifice prend un sens dans la mesure où le roi a pardonné à ses persécuteurs. Je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. Eh bien, mes chers amis, que Dieu pardonne à ce pays qui s'est révolté contre lui, le roi, mais d'abord contre Dieu. Qu'il fasse redescendre sur la France égarée des grâces spirituelles par la force du sacrifice de celui qui était son roi. C'est notre espérance. Le roi est mort, vive le roi !